pour un avis juridique sur à peu près tout, ce qui concerne surtout le civil, on s'entend. Marc, t'as fait appel cet été dans ton émission Boiler AM à Maître Philippe Thériault.
À deux reprises, on a fait deux émissions spéciales.
C'était un succès bœuf.
C'était vraiment le fun, puis le monde appelle et tout. Puis Philippe, c'est un ami, on a fait notre université ensemble. Ça fait que moi, je voulais pas, je suis membre du barreau, mais crime, je pratique plus, ça fait longtemps.
C'est ça.
Je suis pas vrai que je suis habilité. Mais ensemble, je trouvais ça vraiment trippant, puis j'ai fait crime, on ramène ça dans l'émission du week-end.
Alors, on a fait appel à Maître Philippe
Thériault. Ça, étant lui, là, t'auras bien compris.
À ça. Bonjour, Maître Thériault.
Oui, bonjour, bon matin.
Je vous invite à nous appeler, parce que si vous avez des questions d'ordre juridique à poser à Maître Thériault, c'est vraiment pour ça qu'il est là. 670-9330, 88-670-9330. Si ça vous intéresse moins de parler, je vous êtes gêné, 25-226, prenez le temps de taper votre question, sinon au studio à commercial FM93.com. On prend tous les moyens, là, tous les moyens sont bons pour poser vos questions d'ordre juridique à Maître Phil Leclac Thériault.
Oui,
là, Marc, ça m'explique une chose, ou Maître Thériault, ça vient d'où ça, Leclac?
Ah, c'est une vieille histoire qui date du temps du bac. C'est que moi, l'hiver, je trouvais ça beaucoup plus pratique, quand j'étais étudiant à l'Université Laval, d'arriver en claque.
C'est pas réservé aux 60 ans et plus.
Ben ça. Voilà, c'était doudou, j'étais estomaqué.
Alors, à sa première année de droit, moi j'étais en deuxième année, à sa première année de droit, Marc m'a vu un jour arriver avec des claques et il n'en est pas revenu depuis 7 ans.
Oui, exactement.
Il m'en parle encore aujourd'hui.
Alors, ça date pas d'hier, ta maladie de donner des surnoms.
J'étais au primaire. Mon premier surnom, j'étais en cinquième année, c'était Sylvain Lajoux.
C'est fatigant.
Alors, ça me suit vu tout le long dans ma carrière.
Alors, je vais vous épargner le Maître Leclac pour tout le temps de la chronique.
On peut l'appeler Maître Thériault.
Alors, si vous avez vos questions, des questions à poser à Maître Thériault, 88-670-9330. Déjà, il y a Elisabeth qui est au téléphone. Bonjour, Elisabeth.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je suis contente de vous parler ce matin. Ça tombe bien. Je vais résumer un peu mon histoire. Samedi dernier, je suis allée acheter un chiot chez un éleveur que je croyais était un bon éleveur. J'ai payé le chiot 700$. Quand je suis arrivée sur place, bon, l'éleveur m'a dit qu'elle me donnait une garantie de 2 ans sur les problèmes congénitaux. Fait que j'ai fait mon choix parmi les chiots qu'il y avait là. J'ai remarqué que la chienne que j'avais choisie, elle toussait. Donc, je l'ai fait remarquer à l'éleveur, puis elle me dit « Ah, ça doit être une grippe, tu sais, avec les changements de température et tout. » Puis les chiots étaient tous assez tranquilles. Donc, moi, je repars avec mon chiot, puis pendant la nuit, son état se dégrade, là, méchant de tout et tout ça. Et puis, le lendemain, du sang dans les selles. Fait que finalement, je rappelle l'éleveuse dès le lendemain. Là, je lui dis, je m'en vais te reporter le chiot et tu vas me rembourser parce que tu m'as vendu un chiot malade. Là, je connais quand même un peu les chiens. Là. Puis, elle a refusé. Donc, moi, je lui ai dit, moi, lundi, je vais faire soigner le chiot puis je vais t'envoyer le bill du vétérinaire, puis en tout cas, elle a été vraiment agressive. Puis finalement, après m'être rendue chez le vétérinaire et avoir eu un bilan, le chiot est vraiment malade, là. Il y a vraiment divers problèmes et j'ai pas de collaboration de l'éleveuse.
Bon, écoutez, vous allez avoir un recours contre l'éleveuse, ça c'est certain. Évidemment, gardez précieusement le bilan de santé du chiot fait par le vétérinaire, parce que ça va constituer un peu l'expertise. Mais vous aurez un recours contre l'éleveuse en allant à la cour des petites créances. Évidemment, avant peut-être de lui envoyer une lettre, une mise en demeure, ou ce que vous lui réclamez l'argent en expliquant les motifs. Et si, évidemment, elle ne s'exécute pas dans les délais requis, vous allez prendre un recours à la Cour des petites créances. Mais il y a beaucoup de jurisprudence à la Cour des petites créances, justement, de chiens qui sont... pas de chiens, mais de gens qui sont insatisfaits de...
de chiens insatisfaits des maîtres. Moi, je veux pas être chez eux.
J'ai fouillé. Mais d'ailleurs, j'attends le bilan complet du vétérinaire avant de lui envoyer avec la mise en demeure, mais... Ma question, c'était qu'est-ce que je dois marquer dans la mise en demeure? Parce que là, bien sûr, au bout d'une semaine, je me suis attachée à mon chien, là, c'est normal. Et puis, j'ai payé pour le faire soigner, mais je veux pas juste qu'elle reprenne. De toute façon, elle ne voulait pas dès le départ, là. J'ai des textos qui le confirment. Mais c'est ça, je voulais juste savoir, tu sais, comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois demander dans ma mise en demeure avant d'en arriver aux petites créances.
Généralement, on commence par l'adresse, l'objet, et après ça, on décrit les faits. À telle date, j'ai acheté un chien, vous m'avez donné telle garantie, finalement, il s'est avéré quelques jours après que le chien était malade, un vétérinaire m'a confirmé que le chien a tel et tel problème, en conséquence, je considère que c'est un chien qui est affecté d'un vice. en quelque sorte, un vice caché. Et conséquemment, je vous demande de ne rembourser dans les 10 jours suivant la réception de la présence.
Oui, mais rembourser implique qu'il faut qu'elle redonne le chien. Elle
oui,
pas.
Oui, c'est ça. Ou de fait reprendre
ce serait d'un dommage.
Oui,
plutôt,
c'est
là.
Ça. De reprendre le chien, évidemment, et de me rembourser mon 500 $.
Non, mais elle a voulu le garder, le chien.
Oui, ah, si vous voulez ça. Le garder, ben là, c'est ça. Là, peut-être, vous pouvez peut-être obtenir une diminution du prix de vente à ce moment-là. En disant, mais écoutez.
Oui, c'est ça. Ou le remboursement des frais vétérinaires que
absolument.
Ça a occasionné.
C'est mais c'est
ça.
Sûr que vous avez un recours.
Est-ce que oui, ça répond à votre question, Elisabeth?
Oui, merci beaucoup.
OK, ben c'est nous. C'est moi qui vous remercie. Merci, Elisabeth.
Bye. Bonne journée.
670-9330 si vous avez des questions à poser à Maître Thériault d'ordre juridique. Ou vous pouvez faire comme Pascal qui nous a écrit au studio commercial FM93.com. Pascal nous dit résumé, j'ai fait l'acquisition d'une maison sans agent il y a 2 ans. Je n'ai pas fait inspecter. Entre parenthèses, oui, je sais. Je pense qu'il est conscient que c'était peut-être pas fort. Le proprio ne m'a remis aucun document, pas de facture, de plan, etc. On parle d'une construction 2013. Est-ce que j'ai des recours quand même contre l'ancien proprio? Pour exemple, mauvaise isolation. Et puis, j'ai exigé facture et documents de construction. Je lui ai demandé plusieurs fois en 2 ans.
Oui, évidemment, il y a un recours et de pas avoir fait inspecter. C'était une maison en 2013 qui a été construite en 2013, c'est ce que je comprends.
Ouais.
La nécessité d'inspection est moins présente là. C'est plus, l'inspection, évidemment, pré-achat, c'est important, évidemment, surtout quand on parle de maison ancestrale. Si je prends un dossier de vis caché puis qu'il n'y a pas eu d'inspection pré-achat, puis c'est une maison de 150 ans, oublie ça là.
Comme quelqu'un qui veut acheter le Parlement, mettons.
Ouais, ben ça serait un peu difficile. Là, il y a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années, quoique. Mais non, c'est ça. Oui, il y a un recours. Et évidemment, si la personne ne veut pas fournir les documents nécessaires, bien évidemment, elle sera obligée de le faire dans le cadre d'un recours.
OK.
Mais c'est pas de ne pas avoir fait inspecter, c'est pas nécessairement fatal. Faudrait aller voir un avocat.
Mais alors, ben par contre, il y a un bémol, Philippe, parce qu'elle dit la maison est mal isolée, mais c'est pas seulement un vis caché si c'est pas.
Ben,
à moins que ça soit pas dans les standards, bien
si
entendu.
Oui, c'est pas dans les standards, mais si le vendeur a dénoncé en disant écoute, je te vends ma maison, oublie pas, fais attention, elle n'est pas super bien isolée, ben là, c'est sûr que c'est plus un vis caché.
Non, c'est ça.
Mais si.
Encore faut-il que ce soit écrit quelque part et qu'il y ait une trace de ça.
Oui, une trace, c'est ça, évidemment. Là, souvent dans les documents pré-achat, là, c'est souvent ça apparaît là.
Pendant que vous réservez vos circuits téléphoniques au 88-670-9330, j'en ai une question pour vous. Moi, j'allais dire Maître Les Claques.
C'est quand même
Maître Thériault. C'est quand même. Il lâche pas le morceau. Hein. Maître Thériault, c'est pas vraiment nécessairement du civil. Ben, je sais pas. C'est cette histoire-là dont nous parlait notre collègue Julie Grenon plutôt à l'émission dans un reportage assez choquant, comme quoi il y avait un pédophile notoire parce qu'il a quand même été condamné. Il a fait 54 mois de prison. Il est sorti notamment avec une évaluation de risque de récidive moyenne à élevée, quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Et le gars veut changer de nom. Et moi, il y a comme quelque chose que je peux pas saisir là-dedans. Est-ce que c'est permis pour une personne qui a été condamnée pour des gestes à caractère sexuel sur des mineurs comme ça, de vouloir changer d'identité pour quelque part un peu disparaître du radar?
Ouais. Je pense que c'est une procédure qui est très difficile de changer de nom. Évidemment, il faut s'adresser au directeur de l'État civil. Et ça peut certainement pas être confidentiel. Là. Ça, j'en serais très surpris que ça soit accordé. Et je pense que pour avoir, là, ça fait longtemps que j'ai pas papoté sur des dossiers de changement de nom, mais il me semble qu'en général, il faut que ça soit un motif. Par exemple, dans le cadre d'un changement de sexe.
Ouais.
Ça, évidemment, ça va être autorisé. Évidemment, une personne change de sexe, elle devient, bon, elle a le droit.
Changer de nom aussi.
Changer de nom aussi, surtout de prénom.
Ouais.
Garder son nom de famille, mais elle pourrait pouvoir changer son prénom.
C'était l'inverse dans le cas de ce gars-là. Il gardait le même prénom, mais il changeait de nom de famille.
Ouais. Mais sinon, ça va être accepté seulement des fois si t'as un drôle de nom. Comme je disais à Marc en début d'émission, Mané, t'as fait une émission sur les drôles de noms.
Ouais.
Ben, des fois, Mané, c'est susceptible de... Ça suscite l'opprobre ou ton nom est, bon, par exemple, Marc Lépine, peut-être que ça peut
être
t'as des commentaires puis que ça affecte ta qualité de vie, quelque chose, ben tu peux peut-être avoir du succès dans
le. Il faut que tu te présentes devant un juge. Sais-tu pourquoi je le sais? Parce que dans les rares requêtes que j'ai faites quand j'ai fait mon stage, j'ai fait une requête en changement de nom.
Oui.
Ouais. Puis c'est vraiment pas juste t'envoies un formulaire, c'est tout.
Non.
C'est vraiment qu'il y ait une personne physique qui s'appelle un juge qui dit, basé sur la jurisprudence, les critères, oh oui, je pense que vous avez des bonnes raisons. Mais imagine les bonnes raisons de l'autre, là, de dire, écoutez, monsieur, moi, je suis pédophile. Mais là, je voudrais
garder mon anonymat parce que j'ai un risque élevé de récidive, puis je voudrais pouvoir récidiver.
Ouais, donc, le résumé de Philippe, c'est de dire, remplir le, il peut bien remplir le formulaire.
C'est ça, il peut le faire, il peut le demander, il a le droit, mais à mon avis, ça ne sera pas couronné de succès.
Okay. C'est ça. On s'arrête 3 minutes et au retour, Maître Thériault, vous allez être encore là, d'après moi.
Et oui.
Surtout si vous avez des questions à lui poser, 88 670 9330.